France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, réalisé par Perret Legras avec Grégory Wallon à la technique et Jeanne Agrapard aux commandes de la page web de cet épisode consacré à l'argent de l'école. Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance, aurait déclaré le président Abraham Lincoln. Difficile de dire si l'éducation coûte cher en France aujourd'hui, mais les chiffres donnent le tournis. 180,1 milliards d'euros, 6,8% du produit intérieur brut. Ça, ce sont les chiffres de 2022 donnés en 2024 par le ministère. Mais pour le CDE, c'est 5,4% du PIB. L'histoire de l'éducation montre que la maîtrise du budget a été une grande préoccupation au moment de l'explosion scolaire au milieu du XXe siècle, quand la France s'est mise à compter beaucoup plus d'enfants qui faisaient beaucoup plus d'études. Et les crises économiques ont un impact sur la dépense éducative, même quand on prétend élever le niveau moyen de formation de la population. Alors, il faut d'abord comprendre de quoi cette dépense est constituée, ses contraintes et ses limites. C'est ce que nous propose l'historienne Clémence Cardon-Quin dans son ouvrage L'argent de l'école. Nous verrons ensemble si le passé de l'éducation éclaire son présent concernant ces questions budgétaires, alors que nous vivons un moment historique avec la baisse du nombre d'élèves. Autre question, l'efficacité de la dépense et donc de l'investissement, si on défend l'idée que l'éducation est un investissement, une idée étonnamment nouvelle du côté de l'efficacité. On n'a pas beaucoup réfléchi à l'efficacité des investissements ou des dépenses, nous expliquera l'économiste Julien Grenet, qui lance un nouvel outil pour mesurer donc le rendement de cette dépense publique. Alors, qu'est-ce qu'une dépense ou un investissement efficace pour l'école? Eh bien, nous avons une heure. Bonjour Julien Grenet.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de l'Institut des politiques publiques, économiste, directeur de recherche au CNRS, professeur associé à l'École d'économie de Paris, c'est long hein, les présentations, co-auteur avec Luc Bénagle et Marc Gurgan de l'économie de l'éducation. C'est un repère donc publié à la Découverte, dernière édition 2023, et vous publiez avec le Conseil d'analyse économique, c'est le CAE, donc éducation, comment mieux orienter la dépense publique. Je crois qu'on a compris à peu près de quoi on parlait, et un nouvel outil avec Camille Landais. Pourquoi c'est nouveau?
Alors, c'est pas particulièrement nouveau en économie. On utilise cet outil pour beaucoup de politiques publiques. Ce qui est un peu nouveau, c'est de l'appliquer à l'éducation.
Oui, quand je dis nouveau, c'est nouveau pour moi, pour nous, voilà. pour Être et Savoir, pardon.
C'est aussi nouveau parce qu'on a beaucoup plus d'évaluations aujourd'hui qui nous permettent de mieux, d'une certaine manière, calculer les bénéfices de l'éducation qui sont à très long terme.
Parce qu'on a beaucoup de chiffres concernant l'école. On a des bons services statistiques en France, au ministère. Beaucoup d'universitaires travaillent sur cette question, d'économistes. À l'École d'économie de Paris, on s'intéresse beaucoup à l'éducation. Mais on ne faisait pas le rapport entre les chiffres des... Et d'ailleurs, je ne sais pas comment on mesure la réussite d'un système éducatif tout à fait, et les dépenses.
Alors, on a beaucoup plus d'évaluations aujourd'hui qu'on en avait il y a même 10 ans. Et c'est vrai que ça tient beaucoup à la qualité très grande des données dont on dispose en France pour mener ce genre d'évaluation. On a aussi une meilleure connaissance des coûts de l'éducation. Et puis, conceptuellement, on avance aussi sur la manière d'essayer de mesurer les bénéfices, les rapporter aux coûts, essayer de voir si, le redoublement, c'est efficace par rapport à baisser la taille des classes.
Eh ben, merci pour ces exemples, parce qu'on va en reparler dans un instant. On va commencer... Par évoquer l'histoire de l'éducation avec vous, Clémence Cardon-Quin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Montpellier, Paul Valéry, membre du laboratoire, un nom magnifique, hein, CRISE, Centre de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Humaines et Sociales, et membre junior de l'Institut Universitaire de France. Vous publiez L'argent de l'école, histoire du budget de l'éducation nationale depuis 1945 aux presses de Sciences Po. Ça a apparu en avril 2025. C'est une sacrée somme, pardon, et un beau sujet historique. Bah, revenons un peu, en 1963.
Pour la première fois, les crédits du budget dépassent 10 milliards de francs, 2 francs 63. Pour la première fois également, il y a plus de 10 millions d'étudiants et d'élèves. Un quart de la population française va à l'école.
Le rapporteur du budget, M. Chapalin, de l'UNR, a fait deux remarques d'ordre général.
D'abord, le ministère de l'Éducation nationale, a-t-il dit, change trop souvent de titulaire. 8 fois en 4 ans. Ensuite, les plus grandes difficultés n'ont pas encore apparu, a-t-il dit. On les rencontrera en 1965, lorsque la vague démographique atteindra l'enseignement supérieur. Après avoir donné le détail des crédits attribués à la création de nouveaux postes budgétaires, le rapporteur a abordé le problème des constructions scolaires et celui des bourses. Ici comme là, il a constaté un retard sur les prévisions du plan et une insuffisance des crédits.
Les prévisions du plan, on avait en France de grands plan scolaire. C'est un chiffre qui m'a toujours énormément étonnée. Dans les années 60, on a construit à un moment un collège par jour. Enfin, c'est très très bizarre comme idée. Aujourd'hui, on se dit voilà, c'était une énorme croissance démographique et puis une énorme croissance pour l'éducation. Il y a beaucoup plus d'élèves qui allaient au collège. On entend aussi plus d'étudiants. Il fallait donc planifier.
Effectivement. Alors, cette planification scolaire, en fait, elle est à la croisée de deux histoires. Le plan scolaire lui-même, comment répondre aux besoins de l'école, et puis la planification économique et sociale. Et en fait, au départ, vous avez un plan scolaire qui vient répondre à des besoins très précis. On a d'abord des écoles en ruine, après la guerre, et puis on a très vite les enfants du baby-boom qui arrivent dans les écoles primaires d'abord, on pressent qu'ils vont arriver dans le second degré. Vous avez aussi l'exode rural, donc des enfants qui arrivent en ville, les écoles rurales qui se dépeuplent. Et tout ça nécessite évidemment des constructions scolaires, d'autant plus que déjà on parle d'un allongement de la scolarité. Alors c'est réclamé par exemple dans le plan Langevin-Ballon, mais plus largement on voit aussi que le comportement des familles change, que les familles sont prêtes à laisser leurs enfants plus longtemps à l'école. Bref, il faut anticiper ces constructions.
Le plan Langevin-Vallon, c'est juste au lendemain de la guerre et sa formule, il formule, c'est un plan très à gauche, de l'époque, des grandes ambitions pour l'allongement de la scolarité. Et c'est un peu ce qui va advenir au fil des années 60-70. Pour résumer un peu historiquement les périodes que vous couvrez, mais j'avance très très vite et évidemment je peux pas dire tout ce qu'il y a dans le livre, mais voilà, une augmentation du nombre de collégiens puis du nombre de lycéens.
Exactement, avec des raisons démographiques et liées aussi à l'évolution des comportements de scolarisation, le fait qu'on reste plus longtemps à l'école. Et donc, il faut prévoir des constructions scolaires, et le plan scolaire, au départ, il se développe de manière un peu indépendante. On cherche à faire un recueil des besoins, à évaluer les effectifs à venir des élèves du primaire, du second degré, de l'enseignement supérieur, en essayant de deviner l'évolution des trajectoires scolaires, ce qui n'est pas simple, hein, puisqu'il faut projeter dans l'avenir l'allongement des scolarités. Et puis, petit à petit, cette histoire du premier plan scolaire, elle va rejoindre la planification économique et sociale, qui a une autre histoire et qui renvoie à l'idée qu'il faut orienter les investissements de la France pour préparer la croissance. Et donc au début, on a des chronologies qui se chevauchent, qui se superposent, et à partir du troisième plan, la préparation du plan d'équipement scolaire et universitaire devient partie prenante de la planification qui est conçue comme une planification économique et sociale. Donc en fait, on cherche à anticiper ce que va être la croissance économique de la France pour pouvoir dire comment on va répartir la richesse produite et préparer la richesse de demain et préparer aussi le progrès social, puisqu'on choisit comment on va répartir d'un côté les investissements productif, donc les usines qu'on va construire, mais aussi les investissements sociaux, les écoles, les hôpitaux. Et c'est ça l'histoire de la planification dans les années 60, et la planification scolaire est un élément de cette histoire.
Alors il y a un mot qu'il faut retenir, c'est le mot de croissance, et on va l'évoquer un peu plus tard dans cette émission. On peut peut-être rappeler de quoi est constitué le budget de l'éducation finalement. On a parlé du bâti, c'est quoi la dépense éducative, Julien Grenet? On dit souvent que c'est principalement le salaire des enseignants.
C'est essentiellement les salaires, alors au-delà des enseignants, des personnels de l'éducation nationale. Donc aujourd'hui, on a 1,2 million de personnels dans l'éducation nationale, 850 000 enseignants. C'est l'essentiel de la dépense. Il y a aussi des dépenses de fonctionnement, il y a les bâtiments à entretenir. Mais enfin, c'est quand même essentiellement de la dépense en personnel. Ce qui, évidemment, crée des contraintes sur la manière dont on l'oriente, puisque ça passe essentiellement par les recrutements ou moins de recrutements. Oui, c'est une dépense particulière à ce titre.
Les personnels retraités aussi, c'est énormément de monde. Il faut bien payer les retraites des enseignants qui ont travaillé longtemps.
Bien sûr, et les retraites pèsent lourd évidemment dans le budget. Et puis les retraites futures, quand on faut provisionner le coût d'un enseignant, eh bien, on compte la retraite future et ça renchérit beaucoup le coût.
Donc, il y a cette idée de long terme, hein, toujours dans la dépense éducative, non seulement pour l'avenir des élèves, mais aussi parce que quand on construit un établissement, normalement, c'est pour longtemps. Quand on embauche un professeur, on va le payer aussi pendant sa retraite jusqu'à sa mort, j'ai envie de dire. Mais en fait, au fond, c'est ça. Donc, c'est une dépense pour l'État, pour le secteur privé, comme le secteur public, enfin ça marche dans les deux sens, puisque là aussi il y a des arbitrages qui ont été faits. En France, l'État finance tous les salaires de tous les professeurs. Clémence Cardon-Quin, où se font les arbitrages? Est-ce que c'est le ministère de l'Éducation qui est à la barre, ou pas seulement? Est-ce que c'est le ministère du budget? Et que fait aussi la représentation nationale dans peut-être ces jeux de pression pour avoir, par exemple, plus de budget, pour obtenir plus de crédits pour l'éducation?
Alors, la première chose à comprendre, c'est que moins on a de croissance, moins on a de choses sur lesquelles on peut trancher. La part des crédits sur lesquels il va vraiment y avoir une décision va se rétrécir au fur et à mesure que la croissance ralentit. Ça, c'est le premier élément important, hein, c'est qu'en réalité, le budget de l'éducation nationale, il est largement surdéterminé par des décisions passées. Donc on décide sur une infime tranche, hein, qui est de l'ordre du pourcentage au moins. Ça, c'est la première chose à avoir en tête. La deuxième chose, c'est que dans la période que j'étudie, en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, le fonctionnement n'est pas très différent, mais il y a d'abord une réflexion d'ensemble au niveau de la direction du budget sur ce que vont être les recettes et les dépenses de l'État. À partir de là, bon, ça va être les grandes perspectives budgétaires. À partir de là, le gouvernement va choisir quelles sont ses priorités. Et c'est à partir de ces grandes masses que pourront être prises des décisions ponctuellement sur chacun des budgets. Et ce qui est intéressant quand on regarde la manière dont les décisions sont prises, c'est qu'au fond, il y a un certain nombre de décisions techniques qui se font à l'échelle de l'administration et simplement quelques arbitrages...
L'administration de l'éducation nationale.
L'administration de l'éducation nationale et la direction qui, en son sein, est chargée des finances, du budget et qui va changer de nom et d'organigramme au fur et à mesure de la période étudiée. Mais pour vous donner un exemple concret, gratuité scolaire. La gratuité scolaire, c'est une mesure qui va être chiffrée. Gratuité scolaire au sens de gratuité des manuels, gratuité des fournitures. Bon, dès les années 60, il y a cette idée qu'il faut étendre la gratuité. On avait déjà la gratuité de l'enseignement pour le primaire, le secondaire, et il y a cette idée qu'il faudrait étendre la gratuité pour les manuels scolaires, pour les transports scolaires. C'est une mesure qui va être inscrite au budget régulièrement à partir de 1900, enfin qui va être inscrite dans les demandes budgétaires de l'éducation nationale à partir de 1963. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va franchir le cap et augmenter les crédits alloués aux manuels scolaires? Qu'est-ce qui fait qu'on va généraliser la mesure à l'ensemble du collège? C'est qu'à un moment, les politiques s'emparent de cette question-là et la mettent au premier plan dans le programme politique. C'est ce qui va se passer pour le programme de Provins en 1973. À partir de là, la majorité qui va être réélue fait de cette question-là une question centrale de son programme politique et va chercher les moyens d'obtenir la gratuité, d'inscrire la gratuité des manuels scolaires dans le budget.
Voilà, pour le collège, par exemple.
Pour le collège.
Mais la gratuité des manuels du lycée, qui s'est faite par les régions, qui, alors, je sais même pas si, en fait, les manuels scolaires sont gratuits dans toutes les régions de France. Je sais que c'est le cas, dans la région où je vis, c'est-à-dire la région parisienne. C'est arrivé avec beaucoup moins de débats au cours des années 2000. Moi, j'avais pas des manuels gratuits. On voit aussi que, finalement, ce qu'on considère être la gratuité scolaire a évolué au cours du temps.
Le contenu, parce que c'est un terme qui est très trompeur, puisqu'en fait, rien n'est jamais gratuit. Il faut toujours que quelqu'un paye. Et d'ailleurs, on ne trouve pas le terme, ce n'est pas ce terme qu'on emploie. C'est pas la traduction du terme gratuité qu'on va employer à l'étranger pour parler de la prise en charge par l'État ou sur les dépenses publiques des frais engendrés par l'achat de manuels scolaires ou de fournitures scolaires.
Parce qu'on a un rapport peut-être différent à l'État en France et à son rôle dans l'éducation depuis la création de l'école publique, depuis Jules Ferry, peut-être même depuis avant. J'ai une question sur votre titre, Clémence Cardon-Quin. L'argent de l'école, est-ce que c'est l'argent que l'État consacre à l'école? Est-ce que c'est ce que fait l'école de son argent? Parce qu'on pourrait dire l'argent de l'école, c'est notre argent. Enfin, c'est intéressant d'avoir choisi de le formuler comme ça.
Alors, derrière cette expression qui est faite pour interpeller, il y avait cette volonté de faire le lien entre ce qui a été le cœur de mon travail, c'est-à-dire la fabrique du budget. Qu'est-ce que c'est qu'un document budgétaire? Comment on l'élabore? Comment on additionne ces chiffres? Et le fait que vous avez d'un côté tout ce travail, qui est un travail administratif laborieux, on additionne des chiffres, qui est aussi une question politique centrale. Il y a des arbitrages avec des tensions fortes quand vous avez face à face les finances et l'éducation et l'arbitrage du Premier ministre. Et donc, regarder tout ce jeu et comprendre comment dans ce jeu-là viennent s'insérer les grands enjeux auxquels vous faites référence. Le fait que l'argent, c'est aussi un investissement, que beaucoup d'espoirs sont cristallisés sur l'école. Et donc, il y a cette masse, l'argent de l'école, qui, dans le titre de cet ouvrage, renvoie plutôt, bien sûr, à l'argent qu'on dépense pour l'école, et notamment à l'argent que l'État dépense pour l'école, puisque moi, je m'intéresse au budget de l'État, au budget que l'État consacre à l'école, ce qui bien sûr a des liens avec ce que les familles consacrent à l'école, ce que les collectivités consacrent à l'école, parce que un des éléments d'évolution du budget que l'État consacre à l'école, ça va être aussi la question des transferts de charges et de savoir s'il vaut mieux que ce soit les familles qui payent ou l'État, les collectivités locales ou l'État, et que tout ça fait aussi évoluer le périmètre et la masse du budget alloué par l'État à l'école.
Julien Grenet, le fait de penser que l'État doit consacrer autant d'argent à l'école, et d'ailleurs on peut peut-être prendre quelques points de comparaison, est-ce que c'est particulièrement fort en France si on regarde donc ces histoires de PIB dont je parlais au début? Selon l'OCDE, 5,4% de notre PIB, c'est plus que la moyenne de l'OCDE, 4,9%. C'est des chiffres que je viens de lire aujourd'hui, je les relis souvent mais je les oublie assez vite pour tout dire. Les pays qui ont le plus de dépenses, c'est par exemple la Norvège. Mais il y a des pays qui dépensent beaucoup et qui n'ont pas des très très bons résultats, comme le Chili, ils ne sont pas très bons dans PISA par exemple. Alors est-ce que c'est particulier à la France de vouloir dépenser beaucoup et qu'il y a un consentement fort, et j'ai l'impression que ce consentement est fort, dans la population pour qu'il y ait une dépense publique éducative? Et est-ce qu'on attend une efficacité, ou est-ce qu'on trouve que voilà, c'est de toute façon le travail de l'État d'investir l'argent des Français, de dépenser l'argent des impôts des Français dans l'éducation?
Alors, c'est vrai qu'on dépense plus, mais on dépense un peu plus. C'est pas non plus un écart considérable. Il y a des pays qui dépensent beaucoup plus que nous, le Danemark, l'Autriche, la Norvège, l'Islande, enfin, dépensent, consacrent une part de leur PIB beaucoup plus importante. Donc, on dépense un peu plus. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de regarder la structure de cette dépense, parce que, en fait, certes, on dépense plus en moyenne, mais par exemple, on dépense moins, plutôt que la moyenne, sur le premier degré. On dépense 11% de moins sur le premier degré, et on dépense 13% de plus sur le second degré. Donc déjà, là, il y a un petit déséquilibre qui est un peu interpellé, parce qu'on sait que les investissements dans la petite enfance, dans l'éducation élémentaire, préélémentaire, ça a tendance à être plus efficace que l'investissement plus tardif. Donc la France a fait ce choix-là. Et l'autre chose qui interpelle, c'est quand on regarde justement l'efficacité de cette dépense telle qu'elle peut être mesurée au niveau très agrégé par les résultats des élèves aux évaluations internationales comme PISA, cette fameuse enquête qui a lieu tous les 3 ans, on teste des élèves à 15 ans sur leurs compétences, et ben on voit que alors on a une dépense un peu plus élevée, par contre on a des résultats plutôt assez moyens, voire un peu en dessous de la moyenne, et en mathématiques des résultats qui baissent assez franchement sur les 30 dernières années. Donc, on n'a pas une dépense très efficace. En tout cas, en comparaison internationale, il y a pas mal de pays qui dépensent autant, voire moins que nous, qui ont des résultats bien meilleurs. L'Estonie, le Canada, l'Irlande, par exemple, ils ont à peu près la même dépense que nous par élève, mais ils ont des résultats bien meilleurs. Ce qui, évidemment, invite à nous interroger sur l'efficacité de notre dépense. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de réallouer la dépense pour obtenir des résultats à la fois du point de vue des résultats des élèves, mais aussi du niveau d'inégalité qui en France est un des plus élevés du monde.
Qui est très marqué, voilà.
Ça, oui, on est toujours dans le peloton de tête, des pays où l'origine sociale des élèves détermine le plus leurs résultats à 15 ans. Et ça, c'est une constante, c'est vraiment ce qui nous distingue le plus dans ces enquêtes internationales.
Et ce n'est pas seulement l'OCDE qui le dit, ce sont aussi nos propres résultats, la recherche du ministère de l'Éducation avec des services statistiques, donc c'est l'ADEP en particulier. Clémence Cardonquin, à partir de quel moment les dépenses d'éducation étaient perçues comme à contenir, et qu'il fallait un peu endiguer? On vous parlait d'explosion scolaire, il ne fallait pas que les dépenses explosent non plus trop. Est-ce que ça correspond par exemple au choc pétrolier de 73, ou est-ce que c'est avant, les fonctionnaires étant peut-être impressionnés par cette inflation scolaire.
En fait, ce qui impressionne au ministère des Finances dans la seconde moitié des années 60, donc alors qu'on est en pleine croissance, c'est qu'on observe d'un côté la trajectoire des dépenses de personnel de l'État, mais évidemment, c'est pour beaucoup les dépenses des personnels enseignants, et de l'autre, la trajectoire de ce qu'on appelle à l'époque la production intérieure brute. On n'est pas encore passé au PIB, au produit intérieur brut. Bref, on voit que ces dépenses de personnel augmentent considérablement et qu'à un moment, il va y avoir un effet de ciseau. Donc en fait, dès la fin des années 60, elle est présente cette préoccupation de se dire on ne va pas pouvoir tenir la croissance à ce rythme-là très longtemps. Et il faut trouver un moyen de contrôler cette dépense qui paraît hors de contrôle parce qu'on a du mal à maîtriser deux paramètres. L'évolution des rémunérations, ça c'est lié à la politique générale des rémunérations de la fonction publique puisqu'il y a des décisions qui sont transversales. Et puis c'est lié aussi au contrôle des emplois parce qu'il faut bien dire qu'à la fin des années 60, la question des emplois à l'éducation nationale, c'est un vaste casse-tête auquel on comprend pas grand-chose. C'est lié notamment à la volonté, à la rentrée scolaire, d'assurer la rentrée scolaire à n'importe quel prix, et la formule est employée dans les archives, hein. Il faut absolument qu'il n'y ait pas de problème, qu'il y ait bien un maître devant chaque place, et c'est salutaire, mais évidemment, ça se traduit par des recrutements qui se font parfois de manière improvisée, des enseignants auxiliaires qu'il va falloir titulariser l'année suivante, donc il y a toute une dynamique qu'on a le sentiment de ne pas contrôler. Ça, c'est un point important, et cette réflexion-là, elle vient précisément au moment où on commence à voir que la France va sortir de l'explosion scolaire, qu'on arrive à construire les collèges, un collège par jour, comme vous le rappeliez. On recrute des enseignants, ça y est, il y a des candidats qui se pressent au CAPES, à l'agrégation. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit bien que notre école ne fonctionne pas très bien, qu'il faudrait rénover les méthodes, rénover les contenus. Et donc la question qui se pose à la fin des années 60, c'est est-ce qu'on va pouvoir rénover, enseigner de manière plus efficace, sans augmenter à nouveau les coûts. Et donc ce débat-là, il se situe autour de... On le voit émerger, on en voit les premières traces en 67-68 avec les premiers grands projets de rénovation de l'enseignement. Et puis en 69, au moment des débats sur le sixième plan, la question est sur la place publique. Est-ce qu'il faut freiner les dépenses d'enseignement? Et en fait, avant même que la crise ne soit là, qu'il y a un freinage dans la croissance, il y a cette idée qu'il faut contrôler la croissance du budget de l'éducation nationale. On n'y arrive pas tout de suite, hein, puisque ça continue de progresser, qu'en 71, l'éducation nationale devient le premier budget de l'État.
En 1971, et c'est toujours le cas, questions qui peuvent se régler par la pédagogie. On parle d'efficacité pédagogique parce que souvent, les ministres disent, voilà, il faut réfléchir à cet axe-là. Si on fait des dépenses, il faut que les résultats soient au rendez-vous. Pourquoi ne pas changer les pédagogies? On peut d'ailleurs se demander si certaines réformes, et on va se le demander d'ailleurs dans un instant, qui ont été présentées d'une certaine façon, ne l'étaient pas plutôt pour faire des économies. Mais puisqu'on parlait du salaire des enseignants, c'est vraiment un point important, on l'a dit, pour la dépense en éducation ou l'investissement. Cette question, elle affleure très, très régulièrement. Elle a fait partie du programme commun et donc dans les années 80, au début, en 82 très exactement, il y a une augmentation des professeurs, des écoles, enfin des instituteurs, qui va coûter très très cher. Et qui va pas finalement se voir beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous raconter, sur les feuilles de salaire des intéressés, est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode, Clémence Cardon-Quin?
Oui, alors c'est un épisode qui est peu connu, beaucoup moins connu que la revalorisation qui a été négociée pour le second septennat. Mais c'est d'ailleurs une revalorisation qui concerne exclusivement les instituteurs, hein, celle de 82, et qui n'est pas seulement due à la gauche. En fait, les négociations, elles ont été entamées sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, gouvernement de Rébombard, le ministre était Christian Belac, à une époque où on allonge la formation des instituteurs. Il faut bien mesurer, et c'est ça aussi l'historique de cet écart de dépenses entre le premier et le second degré, c'est qu'au départ, on avait un immense écart de niveau de formation et qu'en France, donc grosso modo, vous aviez au lendemain de la Seconde Guerre mondiale des instituteurs qui étaient recrutés avec le baccalauréat et une année de formation professionnelle, là où vous aviez, dans le second degré, des professeurs certifiés qui avaient la licence et qui ensuite passaient un concours. Donc vous aviez un écart de formation qui dictait un écart de rémunération. Et ce dont on prend conscience à la fin des années 60, Et là-dessus, il y a consensus, c'est qu'en fait, Bac plus 1 pour les instituteurs, ça ne suffit pas à un moment où on entend faire passer la totalité des élèves dans le second degré, ce qu'on n'avait jamais fait avant. Donc il faut des instituteurs mieux formés, il y a consensus là-dessus. Élever le niveau de formation, hein, c'est une réforme qui est déjà lancée par Christian Belac, hein, qui allonge à 3 ans la formation. On était déjà passé à 2 ans en 69, on passe à 3 ans, hein, c'est décidé en 78. Et déjà, sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, on commence les négociations sur une revalorisation salariale, et puis élection de 81, François Mitterrand est élu. Les socialistes héritent de ce dossier qui est un peu embarrassant parce qu'en fait, eux ont mis en avant l'emploi. Ce qui est central dans la campagne de François Mitterrand, ce sont les créations d'emplois. Et pour l'éducation nationale, ce qu'on va faire, c'est des créations d'emplois. Mmh. Donc au début, ils auraient préféré une pause catégorielle, et c'est ce qui explique aussi la manière dont cette revalorisation de 82 va être négociée, c'est qu'on cherche les moyens d'en limiter l'enveloppe. Donc on ne peut pas revenir sur une décision qui avait été, sur une promesse qui avait été faite par Raymond Barre, hein, de revaloriser l'indice terminal, mais en revanche, on peut négocier sur plein d'autres paramètres, puisque il faut s'imaginer les revalorisations salariales, hein, vous pouvez jouer sur le nombre d'échelons, sur la durée de passage d'un échelon à l'autre, sur l'indice terminal, est-ce qu'on crée un corps supplémentaire, bref, il y a beaucoup d'éléments sur les, beaucoup de paramètres qu'on peut modifier pour contrôler le coût, et donc on va passer de 6 milliards à 3 milliards. Simplement, ce qui se passe, c'est que pour contrôler les coûts et aussi pour qu'elles ne pèsent sur les finances publiques, qu'au moment où, espère-t-on, la croissance sera revenue, eh bien, on va avoir une réforme qui se met en œuvre à bas bruit, qui va commencer à faire sentir ses effets à partir de 86 et plus encore 87, 88. Et donc, le bénéfice politique de la réforme, il ne va pas être recueilli immédiatement par les socialistes. Et en plus, ça va déraper, puisque il va y avoir des coûts... Enfin, des calculs ont été, des choses ont été mal anticipées du point de vue de la pyramide des âges, etc. Donc, ça va être beaucoup plus coûteux que prévu. Et pourtant, les socialistes ne vont pas en retirer le bénéfice politique attendu. Bref, c'est vraiment une affaire mal ficelée. C'est aussi ce précédent qui explique la manière dont a été préparée et mise en place la revalorisation. Voilà, c'est une nouvelle histoire. Seconde revalorisation, 88-89, hein, et qui touche cette fois l'ensemble du corps enseignant, et premier, ben, second degré.
Justement, un grand changement donc pour les instituteurs, institutrices que je me force donc à appeler professeur des écoles, hein, depuis des années que je produis cette émission. On va parler de la loi Jospin.
Fini l'école normale. La réforme Jospin va commencer l'an prochain à entrer en application. De la maternelle au baccalauréat, tous les profs seront formés ensemble, avec bien sûr des différences selon les disciplines. Dès la rentrée prochaine, 3 instituts universitaires de formation des maîtres, les IUFM, seront mis en place à Lille, Grenoble et Reims. Leur mission, définie ce matin par Lionel Jospin au micro de Marie-Ange Lescure.
Il faut garder tous les acquis des connaissances, si vous voulez, toute la formation disciplinaire des enseignants ou toute la formation sur les contenus, les savoirs. Il faut qu'ils soient assurés de leur savoir et qu'ils soient plus poussés. Comme cette formation sera donnée en 2 ans sur un plan très professionnel pour des enseignants, pour des étudiants qui seront encore des étudiants à ce moment-là, qui auront déjà une licence, je pense que nous aurons fait faire un pas en avant à la formation de nos maîtres, des écoles, des collèges, des lycées.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
Donc on parle de l'argent de l'école ensemble avec l'historienne Clémence Cardonquin et l'économiste Julien Grenet. On se demande comment on peut au mieux dépenser l'argent pour l'école. Alors au mieux, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Par exemple, pour les professeurs, bien dépenser l'argent pour l'école, ça veut dire peut-être bien les payer. Cette réforme de 88, 89, 90, bien, c'est passé au professorat. Ça veut dire que le calcul, il est fait sur la manière dont se déroule aussi la carrière de l'enseignant. C'est pas pareil d'être professeur des écoles que d'être instituteur, ou institutrice d'ailleurs, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et on ne va pas avoir la même progression. Et ce qui rend d'ailleurs hyper opaque les discussions pour le grand public, parce qu'on va parler de hors-classe, auxquelles n'ont pas droit les professeurs des écoles quand les professeurs du secondaire y ont droit en fin de carrière, et que ça permet d'avoir un meilleur salaire et donc une meilleure retraite, etc. En fait, ce sont vraiment des débats de spécialistes, mais j'ai une question tout à fait naïve pour vous, Julien Grenet. Est-ce que des profs mieux payés, ça permet d'avoir un meilleur système éducatif? Est-ce que c'est mesuré?
Alors, la difficulté sur cette question, c'est qu'on n'a pas énormément d'études empiriques très convaincantes. Souvent, on va avoir quelques études dans d'autres pays, mais c'est quelque chose qui dépend tellement du contexte institutionnel que bon, des résultats qu'on peut avoir sur d'autres pays ne vont pas être forcément transposables partout. Et en France, on a une difficulté, c'est que autant on a d'excellentes données sur les résultats des élèves aux tests de compétences, on a d'excellentes données sur leur trajectoire éducative, les données sur les enseignants, et notamment les rémunérations, en fait, c'est quelque chose d'assez récent. En fait, ça n'a pas été mis à disposition des chercheurs pendant très longtemps. Et notamment, une donnée qui manque énormément à la recherche, c'est tout ce qui concerne les mutations des enseignants, la mobilité des enseignants, le fait de faire des vœux, de mutations, de passer d'une académie à l'autre, par exemple. Ce qui est essentiel pour évaluer les effets de la rémunération sur l'attractivité du métier d'enseignant, sur ce qu'on appelle le turnover, c'est-à-dire le fait de rester longtemps dans un établissement. Mmh. Et de ce point de vue, il y a des réformes récentes qui seraient intéressantes d'analyser. Il y en a une qui me semble particulièrement intéressante, c'est la mise en place des primes qui ont été instaurées dans les établissements de l'éducation prioritaire, les collèges REP et REP+, des primes assez conséquentes, dont on entend anecdotiquement qu'elles ont suscité beaucoup de demandes pour ces établissements. Et donc, la grande question, c'est quel type d'enseignant est-ce que ça attire ? Est-ce que c'est les enseignants qui font plus progresser les élèves ? Est-ce que effectivement on a réduit les taux de turnover dans ces collèges de l'éducation prioritaire ? Voilà, autant de questions sur lesquelles on n'a pas beaucoup d'éléments aujourd'hui pour répondre.
Mais par exemple, on sait que les enseignants plus expérimentés, c'est plutôt mieux.
Alors, il y a beaucoup de recherches sur ce qu'on appelle l'effet maître, c'est-à-dire l'impact des enseignants sur les apprentissages des élèves, les progrès qu'ils peuvent faire. Il y a des recherches dans beaucoup de pays assez consensuelles qui montrent qu'il y a, il y a pas mal d'écarts entre les enseignants dans leur capacité à faire progresser les élèves au cours de l'année. Et ce qui est plus difficile, c'est d'établir un lien entre cet effet maître ou ce qu'on appelle parfois la valeur ajoutée des enseignants et leurs caractéristiques. Par exemple, c'est assez étonnant, mais l'effet maître est assez peu corrélé, par exemple, avec les résultats qu'un enseignant a eu au concours de recrutement. On pourrait se dire, les enseignants qui ont mieux réussi le concours, peut-être qu'ils enseignent mieux. En fait, c'est pas le cas. Il y a une caractéristique qui est corrélée, c'est l'expérience professionnelle, surtout dans les premières années. Donc, les enseignants qui débutent leur carrière sont moins efficaces, entre guillemets, font un peu moins progresser les élèves que ceux qui ont acquis, effectivement, l'expérience qui leur permet de mieux gérer une classe, par exemple. Globalement, ces caractéristiques des enseignants sont assez peu corrélées avec leur valeur ajoutée, ce qui pose un certain nombre de difficultés. Parce que ça veut dire que tout ce qu'on peut faire au moment des procédures de recrutement va être limité. C'est pas facile d'identifier a priori, sur la base de, par exemple, un oral ou des épreuves écrites, le futur bon enseignant, entre guillemets. Et donc, ça en fait un outil un peu limité.
Mais parce que peut-être aussi que cet enseignant sera meilleur s'il est dans un environnement, par exemple, où ses collègues sont plus stables, dans un établissement où il est bien accueilli. Enfin, on imagine beaucoup de paramètres. Par ailleurs, j'ajoute que tout ce qu'on dit ne signifie pas qu'il faut mal payer les enseignants. Parce que,
bien sûr.
Je voulais que vous précisiez votre pensée. Je crois la connaître sur ce point. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas de dire... résultat scolaire égal, autant mal payer les professeurs, évidemment. On ne veut pas dire ça. Une question qu'on se pose très très souvent avec Avril Ventura au bureau d'Être et Savoir, c'est puisqu'on paye plutôt pas très bien nos enseignants comparativement aux autres pays, et puisqu'on a plutôt des classes plus chargées qu'ailleurs, même si ça s'est un peu rapproché des moyennes, par exemple dans le primaire, mais en ce moment les classes de lycée sont très très chargées en France, pourquoi le budget de l'éducation est si élevé ? Clémence Cardonquin, je ne sais pas qui a eu une réponse, parce qu'on ne me donne jamais vraiment de réponse super précise à cette question.
Alors, ce que montrent les statistiques évoquées tout à l'heure par Julien, c'est le coût, quand on compare avec les autres pays, le coût des élèves, notamment dans le second cycle, au lycée. Et je pense que s'il y a une source de coût qui est plus importante qu'ailleurs, c'est dans la structure des études au lycée. Peut-être aussi dans les rémunérations, parce qu'on a des enseignants mieux rémunérés au lycée, on a plus d'agrégés qui sont mieux rémunérés, mais il semblerait que ce soit là une des sources de coûts accrus pour la scolarité d'un élève par rapport à d'autres pays. Et c'est sans doute une des origines du coût. Après, le problème de la comparaison sur les dépenses et sur le budget d'éducation, c'est que ce sur quoi on a une visibilité précise, c'est le budget de l'État. Est-ce que le budget est si important que ça par rapport à d'autres pays ? C'est très compliqué, puisque dans les autres pays, vous avez la répartition des dépenses entre les financeurs, l'État, le niveau régional, le niveau local n'est pas la même. Donc on ne peut pas comparer budget de l'État et budget, le budget alloué par l'État à l'école en France et celui alloué par l'État à l'école dans un autre pays, puisque les contributions des financeurs ne se répartissent pas de la même façon. Donc je ne peux pas dire qu'on dépense tant que ça pour l'école. Ça nous paraît énorme parce que c'est un budget énorme et donc évidemment, dès qu'on parle finances publiques, on parle école. Est-ce que c'est si important que ça par rapport à l'ensemble des objectifs qu'on assigne à l'école, par rapport à l'ensemble des attentes qu'on formule à l'égard des enseignants? Ça ne me paraît pas si évident.
C'est important de le préciser. Julien Grenet?
Oui, effectivement, on dépense plus. Encore une fois, on dépense moins dans le premier degré. Donc ça, c'est cohérent. On a des classes plus chargées. On paye un peu moins les enseignants et à la fin, oui, on dépense 11% de moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Alors, dans le second degré, il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur, c'est effectivement le coût du lycée qui est nettement plus élevé que dans d'autres pays. En particulier, le coût du lycée professionnel, en fait, est particulièrement cher en France par rapport à d'autres pays. On a la multiplication des options.
Malgré la réforme qui a fait passer le lycée professionnel de 4 à 3 ans, qui était vu par
on a énormément
les enseignants
de spécialités,
comme une économie.
Et donc, ça ne fait pas forcément des tailles de classe très élevées non plus, donc ça fait beaucoup d'enseignants. On a la multiplication des options au lycée. Et puis un autre paramètre qui a été identifié par l'OCDE, c'est on a des coûts, ce qu'on appelle les coûts auxiliaires, les coûts de transport, de médecine scolaire, qui sont plutôt plus élevés qu'ailleurs. Ils représentent 12%.
Mais on dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de médecine scolaire en France. Donc,
Nous, on s'en plaint, mais en comparaison internationale, on maintient aussi des structures qui sont petites dans le monde rural, on a aussi des écoles qui sont maintenues, ou là où dans d'autres pays, on ne les maintiendrait pas. Ça fait des coûts fixes plus élevés. Donc, au final, c'est surtout cette asymétrie entre premier et second degré qui frappe.
Et pourtant, des écoles rurales, on en ferme. Et aujourd'hui, pas que dans le monde rural. Donc, il faut se demander aussi tout ce que ça a produit, en fait, quand on cherche à faire des économies sur l'éducation. J'ai un cas d'école. Alors, on va un peu reparler des enseignants, mais je le trouve intéressant. D'un moment où on a voulu faire des économies sur la formation des enseignants. On avance dans le temps, on passe en 2009. On a voulu passer la formation des enseignants à Bac plus 5, mais avec une entrée directe dans le métier, c'était donc la mastérisation.
Le projet de réforme supprime cette année de stage rémunéré après le concours, celle où le futur titulaire passe une partie de son temps en classe avec ses élèves et une autre en cours pour encadrer son expérience. Dès l'année prochaine, les jeunes admis au concours délaisseront tout ou presque des cours académiques, on les jettera tout de suite dans le grand bain. Lucie et Pascal sont en deuxième année, ils échappent de peu à la réforme, mais avec une pensée pour leur successeur.
C'est un peu dire « débrouillez-vous quoi ». Vous avez le concours, et puis maintenant, bonne chance, regardez les manuels. Donc moi, je pense que la plupart des enseignants vont se débrouiller avec ce qu'ils ont, parce qu'on a tous une conscience professionnelle aussi. Mais il va peut-être y avoir plus d'élèves en difficulté, parce qu'on n'aura pas assez de billes pour les prendre en charge, quoi.
Ça a aussi des fins un peu économiques. C'est-à-dire que nous, forcément, comme on est en formation, on coûte de l'argent. Tout ce temps-là où on est en formation, on n'est pas devant les élèves. Enlever notre formation, c'est aussi récupérer des postes.
Un reportage de Julie Gacon, diffusé dans les matins de France Culture en 2009. Et je me rends compte que je travaillais au matin de France Culture à cette époque-là. Donc, un grand changement. Est-ce que ça a vraiment abouti à des économies? C'était pas le but qui était vraiment annoncé, mais ça en faisait partie d'après beaucoup des observateurs, pas seulement ces jeunes enseignants qu'on a entendus.
En fait, il faut distinguer l'économie initiale de la réforme telle qu'elle se reflète dans les groupes de travail et ce qui a été vraiment mis en place. Puisqu'au départ, ce qui est prévu, c'est la masterisation, donc le recrutement au niveau master, mais des masters dans lesquels il y aurait des stages pour tous les étudiants, y compris des stages en responsabilité. Donc des étudiants qui se préparent au concours avec une expérience de terrain, qui ensuite passent le concours et sont titularisés. Et là aussi, dans les documents de travail des groupes de réflexion, on voit bien que ce qui est prévu la première année, ce qui est en tout cas demandé par les syndicats, et au départ les ministères ne disent pas non, ce qui est demandé c'est un tiers de décharge la première année, ce qui n'est quand même pas négligeable, pour poursuivre la formation. Donc on a un schéma qui est beaucoup moins brutal que celui qui a été mis en place, et qu'est-ce qui explique qu'on a eu effectivement ce qui a été décrit par la journaliste, c'est-à-dire des enseignants qui ont été recrutés et mis à plein temps devant des classes sans aucune expérience, c'est la volonté d'accélérer le calendrier, c'est-à-dire de mettre en place la réforme et ce recrutement avec mise en mis sur le terrain direct son stage dès la rentrée 2010, alors que les masters avec stage en responsabilité n'avaient pas encore été mis en place. Et là, incontestablement, il y a bien eu la volonté de pouvoir afficher dans le budget des économies, la suppression des professeurs stagiaires qui permettait de répondre à l'annonce politique le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, réduction d'emploi, etc.
Nicolas Sarkozy à l'époque.
Voilà.
Bon, une économie sur fois, parce qu'une fois qu'on a installé ce système-là, on ne refait pas d'économie sur ce qui a été mis en place. C'est-à-dire que une fois qu'on a supprimé le stage, on va pas l'année suivante annoncer qu'on va refaire des économies.
Non, effectivement, ça ne permet pas de continuer à réduire la dépense. En revanche, il y a quand même une réduction nette. Elle a d'ailleurs été chiffrée dans un rapport de la Cour des comptes, en ceci que les stagiaires qui sont rémunérés pendant leur master ne sont pas des fonctionnaires. Donc ça coûte quand même beaucoup moins cher de payer des stages à des étudiants, même si vous les payez à tous les étudiants et pas seulement à des lauréats de concours, que d'avoir des fonctionnaires stagiaires avec une grosse décharge d'enseignement qui pouvait aller jusqu'à 2/3 du service. Enfin voilà, ça dépendait des années, le régime a varié. Mais il y a eu quand même une économie sur le nombre d'emplois, une économie qui de toute façon a disparu puisqu'on a à nouveau réformé la formation des enseignants après l'élection de François Hollande. Mais il y a eu un effet d'affichage qui a été recherché et qui a d'ailleurs compromis une réforme qui avait une forme de logique dans la combinaison entre professionnalisation progressive et masterisation. Il y avait quelque chose qui avait été travaillé, pensé, et qui a été réduit à néant par la volonté d'accélérer les calendriers pour pouvoir afficher des suppressions d'emplois l'année dite.
Mais ce qui est incroyable, ou je ne sais pas si c'est incroyable d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui on revient à un nouveau plan de formation où on dit on va revenir sur la masterisation, envoyer les stagiaires au grade de la licence en responsabilité dans des classes, alors progressivement, avec donc des salaires moins élevés, pour aussi là pouvoir recruter davantage d'enseignants. Ce que je voulais vous demander, Julien Grenet, est-ce que c'est d'issible qu'on veut faire des économies? Est-ce que politiquement, ça peut se dire, aujourd'hui, c'est trop de milliards, il faut économiser sur l'école? Moi, j'ai l'impression que non, mais j'ai peut-être un biais de perception, étant donné que je m'intéresse particulièrement à l'éducation. Et est-ce que ça a existé, des économies faites sur l'éducation qui fonctionne? Puisque là, on voit que sur la formation des enseignants, de toute façon, ça n'arrête pas de changer.
Non, alors je crois pas que ce soit quelque chose qu'on réclame à corps et à cri en ce moment, d'autant qu'on est dans un contexte bien particulier qui est celui de la baisse démographique. Donc, je rappelle.
C'est ça le moment historique.
Bah oui, c'est-à-dire que le nombre de naissances a diminué de 20%, enfin, le nombre de naissances par an est plus bas aujourd'hui de 20% qu'il ne l'était en 2010. Et ça a pour conséquence de réduire les effectifs scolaires. Alors ça s'est d'abord fait sentir dans le premier degré depuis 2015, les effectifs baissent. Ça commence dans le second degré. Et à terme, on aura moins 20% d'élèves. Alors si on fait un petit calcul de coin de tête, à budget constant, la dépense par élève, c'est-à-dire elle peut monter de 25%. Donc on n'est pas tellement dans une période où on va réclamer une diminution du budget de l'éducation nationale parce que on a certes une baisse des effectifs, on se dit c'est peut-être l'occasion de redéployer les moyens. Alors on entend, et c'est là peut-être que c'est important de réfléchir à l'efficacité de la dépense éducative, parce qu'il y a plusieurs options possibles et il faut forcément faire des arbitrages. Je vais donner qu'un exemple. Quand on a moins d'élèves, soit on diminue le nombre d'enseignants proportionnellement à la baisse du nombre d'élèves et on maintient la taille des classes, soit on maintient le nombre d'enseignants, dans ce cas-là, la taille des classes va baisser, soit on peut aussi revaloriser les salaires des enseignants, ou on peut diminuer le nombre d'enseignants et récupérer, réallouer une partie de cette manne budgétaire vers d'autres dispositifs, comme le tutorat, par exemple, le numérique éducatif ou la formation continue. Donc, on a tous ces arbitrages sur la table, et j'ai l'impression que c'est vraiment ce moment, le moment dans lequel on est, c'est celui où on doit réfléchir à quelle est l'orientation qu'on souhaite donner aux politiques éducatives? Et mon sentiment, c'est que pour le moment, ça se fait de façon assez passive. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, l'évolution des effectifs scolaires, la baisse démographique dont je parlais, elle n'est pas du tout uniforme sur le territoire. Il y a des endroits comme à Paris où le nombre d'élèves diminue énormément, moins 30%. Il y en a d'autres, la Haute-Savoie, par exemple, où ça bouge pas trop. Et on voit que ça veut dire, quand on ne touche pas au nombre d'enseignants, quand on n'ajuste pas les choses, que la taille des classes à Paris chute très fortement en ce moment. En Seine-Saint-Denis, où la baisse démographique est moins forte, la baisse des classes, de la taille des classes, est beaucoup moins forte. Est-ce qu'on considère que c'est optimal de baisser beaucoup la taille des classes à Paris et de la laisser telle qu'elle en Seine-Saint-Denis ? Peut-être pas. Donc, en fait, il faut réfléchir à la manière dont on souhaite orienter les choses. Et c'est un peu ce qu'on fait dans cette note du Conseil d'analyse économique, c'est de réfléchir à l'efficacité un peu comparée de différents types d'approches pour améliorer les compétences des élèves.
Mais par exemple, la taille des classes, on sait que c'est très très important. C'est mesuré qu'une taille des classes plus faible permet d'avoir de meilleurs résultats scolaires aux élèves. D'ailleurs, dans quelle proportion, Julien René ?
Alors, c'est bien établi dans le premier degré, c'est-à-dire à l'école maternelle, dans l'élémentaire, il y a un ensemble de travaux très importants qui montrent que baisser la taille des classes améliore les résultats. Alors, c'est quand on l'exprime en unité d'écart type, c'est pas toujours très clair, mais disons que pour simplifier les choses, dédoubler une classe, ça fait à peu près progresser un élève qui serait à la moyenne, ça lui fait gagner 12 rangs sur 100. Si vous voulez, si on plaçait les élèves sur les barres d'une échelle de 1 à 100 en termes de compétences, ils passeraient à peu près de la moyenne à 12 rangs au-dessus. C'est un effet assez important par rapport à d'autres interventions éducatives, et c'est très bien documenté en maternelle, dans le premier degré. Au collège, c'est moins clair. Les effets semblent plus faibles, ce qui milite effectivement pour qu'une partie de cette baisse démographique qu'on est en train d'observer en ce moment, elle soit mise à profit pour baisser la taille des classes dans le premier degré, particulièrement dans les écoles les plus défavorisées socialement, où on sait que les effets sont plus forts, et aussi dans les classes les plus petites, c'est-à-dire typiquement petites sections, moyennes sections, qui aujourd'hui ne sont pas dédoublées, par exemple, dans l'éducation prioritaire. Au collège, les choses sont moins claires. Néanmoins, pour donner un ordre de grandeur, on a 5 élèves en moyenne de plus par classe au collège en France par rapport à la moyenne des pays de l'Union européenne. Donc, on a quand même une marge à la baisse qui pourrait être mise à profit.
En termes de travail pour les enseignants, c'est complètement différent. Une classe à plus ou moins 5 élèves.
Et c'est ce qu'on recommande dans la note, c'est effectivement pour le collège d'expérimenter cette politique pour en mesurer plus précisément les effets et comme ça calibrer le périmètre à lui donner. Parce qu'on en a pour 15 ans, 20 ans de baisse démographique, de baisse des effectifs dans le second degré. Parce qu'on sait qu'entre 2010 et 2024, les naissances n'ont cessé de chuter, et tout ça va se répercuter dans le système pendant très longtemps. Donc il faut définir aujourd'hui une stratégie claire, parce que si par exemple on veut rééquilibrer la taille des classes entre les départements qui perdent beaucoup d'élèves, d'autres qui ne perdent pas, ça veut dire qu'il faut agir dès aujourd'hui sur les plans de recrutement qu'on va faire sur les années qui viennent.
Et finalement, on en parle assez peu. Mis à part cette note que vous publiez, Julien Grenet, et ces outils que vous proposez, par exemple, aujourd'hui, le débat qui est proposé par le président de la République, c'est un débat sur les temps de l'enfant. C'est extrêmement intéressant, mais ça correspond pas trop à l'actualité de l'école et ce moment historique que vous décrivez. Les débats aussi, les derniers débats, ce sont ceux sur les groupes de niveau liés au choc des savoirs. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette expression politique très concrète dans ce contexte-là dont vous nous parlez? Je voudrais que Clémence Cardon-Quin réponde après aussi.
Effectivement, les réformes récentes, le choc des savoirs, c'est-à-dire le retour du redoublement, la mise en place des groupes de niveau, là aujourd'hui, les rythmes scolaires, ce n'est pas forcément des thématiques sur lesquelles on a des résultats très encourageants de la recherche. Par exemple, sur les temps scolaires, il y a un ensemble de recherches, mais qui suggèrent que ça n'a pas des effets très très forts, en fait. Les groupes de niveau, là, on a des recherches plus consensuelles, disant que ça n'améliore pas tellement le niveau moyen, ça augmente plutôt les inégalités sociales et scolaires entre les élèves. Le redoublement, là, on a des études très claires, disant que ça coûte extrêmement cher, ça coûte 8 à 10 000 euros par redoublement, pour des bénéfices nuls, voire négatifs, parce que ça a tendance à augmenter le décrochage scolaire, à retarder l'entrée sur le marché du travail. Donc, ça a typiquement un rapport bénéfice-coût très défavorable. Donc, Il y a d'autres logiques qui président à ces choix politiques. Effectivement, sur les groupes de niveau, il y avait quand même l'argument de dire « Ah oui, mais si on veut retenir les parents favorisés dans les écoles publiques et qui fuient pas tous dans le privé, eh bien, il faut leur garantir qu'ils sont scolarisés, qu'ils sont pas scolarisés avec les élèves les plus en difficulté parce que c'est ça qui les fait fuir. » Enfin, ce type d'argument qui n'était pas toujours très assumé, mais enfin, c'est quand même ça qui était sous-jacent. En tout cas, c'était certainement pas les travaux de recherche qui soutenaient une telle mesure. Ça n'a pas toujours été vrai. Par exemple, la mise en place des dédoublements de classe dans l'éducation prioritaire, c'est quelque chose qui était plutôt assis sur des travaux de recherche bien établis, on en a parlé. Voilà, je ne dis pas qu'il y a une fatalité à ce que les choix politiques en matière de politique éducative soient toujours, se détournent totalement et toujours des travaux de la recherche.
De la recherche. Alors, le dédoublement des classes en REP, donc grande section CP, CE1, suivant REP, REP+, donc c'était au temps de Jean-Michel Blanquer, ça paraît loin, mais il n'y a pas si longtemps. Ce décalage politique-décision, est-ce qu'on le perçoit dans l'histoire de l'éducation, Clémence Cardon-Quin, et comment ?
Oui, y compris sur un précédent de baisse démographique à la fin des années 70, où déjà, on sait, hein, à la fin des années 70, il y a un décrochage, presque 100 000 naissances en moins par an, donc on sait qu'il va y avoir des 100... rajouter des moyens supplémentaires, il va y avoir moins d'élèves dans les classes, donc a priori ça dégage des marges de manœuvre. Et cette expérience, c'était à l'époque le ministre Christian Belac qui était en responsabilité, cette expérience, lui, il a voulu jouer le jeu du plan de plein emploi des moyens. L'idée, c'était un peu comme le décrit Julien Grenet, hein, de redéployer les moyens, c'est-à-dire de retirer des emplois au premier degré puisque les effectifs baissaient, de les redéployer pour partie vers le second degré, là où on voyait que les effectifs, au contraire, allaient augmenter. Et puis, dans le même temps, de ménager une partie des moyens du premier degré pour ouvrir, par exemple, des groupes d'aide psychopédagogique, donc pour améliorer l'efficacité de l'école primaire. Et en fait, ce que montrent les archives, c'est la difficulté à mettre en place ce type de mesures. Pour plusieurs raisons, alors des raisons qui tiennent à la gestion du premier degré, je pense qu'on a fait des progrès à ce niveau-là. Il y a un problème de connaissance, de gestion du mouvement, de contraintes liées aux règles de carrière qui fait qu'on ne peut pas déplacer les emplois comme ça, comme des pions. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a des contraintes qui sont d'ordre politique à l'époque. Et on voit dans les archives, hein, la crainte... pour le politique, de faire un faux pas en supprimant des emplois dans le premier degré, par exemple. Et donc, il faut bien voir que, pour le politique, ce qui va compter, c'est quand même d'être élu. Et c'est normal, on est en démocratie. Et donc, la question de savoir ce qu'attend l'opinion publique, est-ce que l'opinion publique, par exemple, va réagir à une couverture médiatique de fermeture de classe à Paris ? Ou est-ce qu'au contraire, elle va être attentive à l'idée qu'on va redéployer les moyens ? Ça va beaucoup jouer dans le choix que va faire le politique. Donc, tout dépend aussi de la manière dont la connaissance est diffusée. Et puis la deuxième chose, deuxième difficulté, c'est que les résultats des enquêtes économétriques, elles sont parfois très éloignées de ce que peut être la manière dont l'enseignant perçoit son propre métier. Et s'il n'y a pas de pont entre les deux, pour un enseignant de terrain, on lui dit l'étude économétrique dit que, par exemple, le redoublement ne marche pas, ce dont maintenant beaucoup sont convaincus. Mais si on ne lui explique pas, par exemple, que va faire, et j'ai eu l'expérience avec les stagiaires, le stagiaire qui débute va se dire spontanément, c'est gentil, la fin du redoublement, ça fait des économies, mais moi, là, dans ma classe, j'ai un élève, il est en CE2, il ne sait toujours pas lire, je ne sais pas quoi en faire, et c'est quoi la réponse ? Donc l'enjeu, c'est aussi de faire un pont entre les résultats agrégés qui permettent de donner une direction et puis ce que c'est que l'expérience de terrain et le métier d'enseignant.
Et c'est très très bien qu'on le dise, d'autant plus que, quelles que soient les décisions politiques, c'est quand même long de changer ces pratiques, et c'est pour ça que l'accumulation de réformes, on en a souvent parlé dans cette émission, c'est un vrai problème pour le terrain. Il y a le sens des réformes, mais il y a aussi le fait qu'elles s'enchaînent, et d'ailleurs parfois elles ne sont même pas complètement menées à bien, comme l'avait parfaitement raconté Antoine Prou dans un livre déjà assez ancien, du changement dans l'école. Il faut absolument qu'on parle d'un sujet, c'est l'enseignement supérieur, on l'a entendu dans le son tout au début. S'il y a bien un endroit où on fait des économies, et où pourtant il y a plus d'étudiants, c'est là, c'est l'enseignement supérieur. 1 milliard de baisse dans le budget de l'enseignement supérieur. Ça, c'était un titre du Monde en février 2025. J'ai vu aussi passer le chiffre d'1,5 milliard. Paris 1 doit économiser 80 millions d'euros, juste une université. C'est fou, non? Ça vous étonne pas en tant qu'économiste de voir ça? Et puis en tant qu'université aussi, Clémence Cardon-Car. Alors, Julien Grenet et Clémence
Cardon-Car. Non, ça m'étonne pas du fait de... Effectivement, Clémence Cardon-Car l'a rappelé, la contrainte politique, la frilosité des politiques à toucher à la dépense éducative, elle est beaucoup plus forte que si on parle de l'enseignement supérieur ou la capacité de mobilisation.
On peut y aller, on peut faire un milliard.
Et puis là, c'était plutôt 400, 500 millions là, récemment. Dans une conjoncture qui n'est, il faut bien le rappeler, pas du tout la même conjoncture démographique que dans le premier et le second degré.
Il y a plus d'élèves.
On n'est pas dans une phase de baisse démographique, on est dans une phase d'augmentation des effectifs qui, quand on la croise avec la baisse de budget, fait une dépense par étudiant qui chute dramatiquement depuis plus de 10 ans et qui, évidemment, a des conséquences dramatiques sur les conditions d'enseignement et sur, effectivement, l'efficacité de cette dépense de l'enseignement supérieur dont on sait pourtant qu'elle est essentielle pour la croissance, pour l'innovation.
On se demande si on le sait. Alors oui, un milliard et demi, c'était les chiffres de la presse. C'est vrai que les chiffres qu'on a utilisés dans cette émission, c'est 500 millions. D'ailleurs, c'est un peu compliqué à comprendre pour moi, parce que ça fait quand même une grosse différence de l'ordre de 500 millions. Clémence Cardon-Car, vu de l'université, ces économies, elles sont quand même un peu, je ne sais pas si vous les trouvez étonnantes, mais en tout cas, elles paraissent aussi condamner un peu le système de l'enseignement supérieur public.
Alors, elles sont étonnantes, non, parce que on sait aussi que c'est chez les jeunes que l'abstention est importante, et ça joue un rôle aussi. C'est-à-dire que si les jeunes ne pèsent pas dans le vote, ce n'est pas vers eux que va se tourner la dépense. Après, elles sont aberrantes, et elles sont aberrantes y compris du point de vue de l'école, de l'enseignement primaire et secondaire, parce que le niveau des enseignants, il est quand même lié aussi au niveau de notre enseignement supérieur. On aura beau augmenter le salaire des enseignants, on aura des enseignants qui auront le niveau de notre enseignement supérieur. Et donc dépenser trop peu dans l'enseignement supérieur, on peut faire toutes les réformes de la formation des enseignants qu'on veut, c'est compromettre le niveau initial de nos enseignants et leur capacité après à s'approprier efficacement des réformes, à mettre en place des enseignements efficaces. Il faut être à l'aise dans les savoirs qu'on a à transmettre, qu'on a à enseigner. Il faut être à l'aise avec ses connaissances pour pouvoir ensuite mettre en œuvre des méthodes, pour pouvoir ensuite aider les élèves à apprendre et à progresser.
Mais ça dit quelque chose du poids politique de ce secteur de l'éducation comparé à celui de l'école premier et second degré, c'est-à-dire que les enseignants du supérieur, on les entend, on interviewe très souvent sur France Culture, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de retour sur ces dépenses, même si on parle d'accueillir des universitaires venus des États-Unis en ce moment. On a parlé de croissance aussi dans cette émission. À plusieurs reprises, la croissance, c'est pas vraiment dans l'air du temps. Mais d'ailleurs, il y a aussi des gens qui parlent de décroissance. Donc, si on indexe le progrès de l'éducation à une croissance économique, il y a un moment où on est coincé. Est-ce que on peut penser à un progrès de l'éducation dans une société où il y aurait moins de croissance ou plus de croissance, Clémence Cardon-Car? Est-ce que, je dis pas qu'on peut pas le penser, mais est-ce que des gens commençaient à y réfléchir, tout simplement?
Alors, j'ai pas connaissance de travaux, je pense que c'est une question essentielle, précisément quand on est préoccupé par les questions environnementales et qu'on ne souhaite pas forcément plus de croissance pour l'avenir. Savoir comment on peut transformer l'école sans compter sur la croissance économique, c'est une question essentielle. Je suis pas sûre qu'il y ait énormément de contributions pour le moment sur ce dossier essentiel. Mais c'est vrai qu'on est tous, on a tous grandi dans cet imaginaire de la croissance et dans l'idée que le lendemain, on aurait plus de richesses, plus de biens, plus de possibilités. Peut-être qu'il faut apprendre à imaginer un autre avenir. On est encore tributaire des rêves qui ont été construits dans les années 60, qui étaient des rêves de prospérité, de croissance infinie et d'amélioration vus comme un dû.
Et est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à réfléchir à, finalement, c'est quoi la croissance du niveau éducatif? Est-ce que, par exemple, si faire des études supérieures pour faire des études supérieures sont garanties d'avoir des emplois qui correspondent à son niveau d'études, doit aussi être interrogé aujourd'hui? Julien Grenet, ça pose aussi des questions sur l'investissement, et pas seulement économique, parce qu'on parle d'économie, mais c'est bien la vie des personnes qui est là en jeu, sur comment on va travailler dans un monde où ces diplômes ne seront pas reconnus. Ça pose aussi... beaucoup de questions.
Moi, je suis un peu sceptique sur ces discours-là, c'est-à-dire que quand on regarde quand même empiriquement, l'éducation, c'est la meilleure protection contre le chômage, c'est le principal déterminant des niveaux de revenus. Donc, Bien sûr, on pourra réfléchir à ça quand on commencera à voir tout ça se matérialiser dans les données, mais pour le moment, je crois qu'on peut quand même considérer que cet investissement-là, c'est l'un des plus rentables pour la société, beaucoup plus rentable que d'autres investissements qui vont cibler davantage les adultes, par exemple. Il y a peu de politiques sociales et fiscales qui ont des rendements, entre guillemets, aussi élevés que celui de l'éducation. Alors certes, c'est des rendements à très long terme, mais refuser de regarder en face l'efficacité de notre dépense éducative, ben c'est un coût potentiellement très élevé à l'avenir. Et penser que, par exemple, la baisse démographique, c'est un gisement d'économie pour la nation, c'est un très mauvais calcul.
Merci beaucoup, Julien Grenet. Allez, je rappelle une dernière fois le titre du livre de Clémence Cardon-Quin, je le fais très vite. L'argent de l'école, histoire du budget de l'éducation nationale depuis 1945, publié aux presses de Sciences Po.